Je vous prie de vous rasseoir, tout en demeurant dans cette attitude de recueillement, car nous voulons recevoir sa parole depuis sa présence. Nous voulons disposer nos cœurs à recevoir ce qu'il a à nous communiquer au travers de sa parole. Mais pour cela, il est important que nous puissions évacuer de nos têtes toute pensée négative, toute pensée de distraction. Il est important que toute notre attention soit focalisée sur le Seigneur, que nos regards restent et demeurent rivés sur lui. Après ces moments merveilleux, ces moments extraordinaires, ces moments magnifiques que nous venons d'avoir, Seigneur, en ta présence, ces moments qui nous ont permis de nous approcher de toi, de nous prosterner devant ta majesté et de te rendre, ô Dieu, ce qui t'est dû de toute éternité, la louange, l'honneur, la gloire, la majesté, l'adoration, la reconnaissance. Et merci, ô Dieu, de nous avoir accueillis en ta présence, malgré nos imperfections, malgré notre vulnérabilité. Un jour, de par notre position en Christ, tu as permis que nous soyons élevés à un rang et une dignité sans équivalent dans l'histoire de toute l'humanité. Puisqu'en Jésus, nous sommes devenus tes enfants. En Jésus, nous sommes tes fils et tes filles. Et c'est en tant que tel, ô Père, que nous avons répondu à ton appel ce matin à venir dans ta maison pour te rencontrer. Et merci, ô Dieu, pour cette capacité par ton Saint-Esprit à dialoguer avec toi, cette capacité par ton Esprit à nous exprimer là devant toi. Oh, merci pour tout. Parle-nous, Seigneur, que ta parole trouve des cœurs bien disposés à l'accueillir, à la recevoir. Parle-nous, Seigneur, et utilise ton serviteur comme un simple outil dont tu vas te servir pour l'édification, pour l'encouragement, pour la bénédiction de ton peuple. Non seulement ton peuple rassemblé dans ta maison, ici, Seigneur, à la borne, Upen, mais aussi ton peuple qui nous suit un peu partout à travers le monde. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Amen. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, nous allons revenir à, une fois de plus à notre thème. C'est donc le septième épisode de ce voyage extraordinaire qui amène nos cœurs vers le cœur de notre Père. De ce voyage extraordinaire, mes amis, qui consiste à tout abandonner en nous-mêmes pour nous approcher de Dieu afin de le louer, afin de l'adorer. Nous sommes donc en train de parler depuis de nombreuses semaines de l'entrée du lieu secret, de ces lieux où notre Père siège en majesté, de ces lieux, mes amis, qui n'a pas de pareil dans tout l'univers, ces lieux qui est sa demeure même, là où il siège sur son trône. Et à partir de son trône, il étend sa gloire, non seulement dans l'univers invisible, mais également dans l'univers visible, dans le cosmos, dans tout l'univers. Du reste, celui est lui seul qui soutient toutes les lois physiques, toutes les lois mathématiques, chimiques, sur lesquelles repose notre univers visible même, ce que nous ne pouvons pas voir, parce qu'on ne peut pas voir tous ces éléments subatomiques, les atomes, les électrons, tout ça, on ne peut pas le voir. Et donc tout cela repose sur des principes que lui a établis. Nous allons relire une fois de plus Matthieu 6. Je crois qu'à la fin de cette série d'enseignements, vous finirez par connaître ce texte par cœur et que vous pourriez le réciter avec votre cœur. Matthieu 6, les 9 premiers versets. Donc, nous sommes toujours dans ce sermon sur la montagne, texte de base de notre foi, enseignement essentiel à notre croissance. Enseignement unique et singulier, et je me permets de vous le rappeler, vous qui n'avez pas l'habitude de lire constamment, régulièrement la Bible, sachez que tout ce qui est dit dans les épîtres, tout ce qui est dit dans les différentes lettres que les auteurs du Nouveau Testament ont écrit, tout cela est le développement de ces enseignements fondamentaux que le Seigneur nous a laissés à travers le sermon sur la montagne. Nous commençons notre lecture au premier verset, évidemment. Ça commence par cette mise en garde sévère. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. En vérité, je vous l'ai dit, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes, se mettre en évidence. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans ton tameillon, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, te récompensera. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, de vaines redites, rabâcher les mêmes choses, des tas de choses, pensant que de cette manière, eh bien, notre prière monterait jusqu'au ciel, pas du tout. Multipliez pas des paroles vaines comme des païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et le verset 9, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, ainsi de suite. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous pouvez construire le dialogue avec ce Dieu merveilleux, le Dieu de la Bible, qui de par notre position en Christ est devenu notre Père, qui de par notre position en Christ nous a élevés à un rang, à une dignité, mes amis, extraordinaire, sans équivalent dans toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes devenus ses enfants, il nous a adoptés en Christ, il nous a fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Nous sommes ses enfants. La Bible est formelle. Il n'y a rien à discuter. Il n'y a rien à marchander. Voyez, nous sommes ses enfants. Et gloire au Seigneur. Alléluia. La dernière fois, nous avons donc terminé avec les 6 recommandations, les 6 injonctions qui précèdent le verset 9, où le Seigneur dit, voici donc, voici enfin comment vous devez prier. 6 recommandations importantes. 6 recommandations qui constituent, mes amis, cette antichambre par laquelle nous devons absolument passer avant d'accéder au trône de la grâce. Cette antichambre, cette espèce de vestibule, cette espèce de salle d'attente où nous devons absolument passer si nous espérons, mes amis, entrer véritablement dans la présence du Seigneur, communier avec lui de manière intime, expérimenter, humer, respirer l'oxygène qu'il y a dans sa présence, se joindre à ces myriades de créatures qui entourent son trône et qui à chaque instant proclament sa majesté, proclament ses louanges, le célèbre et gloire à Dieu. Les deux dernières recommandations, les deux dernières injonctions, comme nous l'avons dit, sont donc là pour nous permettre de savoir comment nous devons construire notre dialogue avec Dieu. Nous sautons, nous allons tout de suite au verset 9. Notre Père qui est aux cieux, certains récitent ça comme des perroquets. Vous voyez? Mais avant d'arriver ça, le Seigneur a pris soin, mes amis, de nous montrer par où ce chemin passe avant que nous arrivions dans le palais céleste, dans ce palais royal. où il siège, où il trône en majesté. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Quand vous priez, ne multipliez pas des paroles vaines. Et puis ensuite, il ajoute, comme des païens, ne leur ressemblez pas. Des paroles vaines, des vaines rédites. On pense qu'en force de crier, on pense qu'en force de prendre une certaine posture, de lâcher quelques mots incompréhensibles, eh bien Dieu entendrait la prière et se verrait dans l'obligation d'y répondre. Alors on est là. Vous voyez? Tout ça peut nous faire du bien. Tout ça peut envoyer un signe aux autres que nous sommes vraiment des hommes et des femmes très spirituels. Mais c'est de l'hypocrisie. C'est ce que nous avons vu pendant des semaines. Ne soyez pas des hypocrites, de ceux qui prient pour attirer leur regard sur eux. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Ça aussi c'est spirituel, prendre un verre d'eau quand on prêche. Voilà. Ne soyez pas comme eux qui aiment à prier sur les places publiques, dans des synagogues, dans le but d'être vu. L'hypocrisie. Chercher à attirer à la fois le regard de notre Père et en même temps le regard des hommes. Ça ne marche pas comme ça. De lors que nous cherchons à ce que les gens nous voient, de lors que nous faisons des choses pour nous mettre en évidence, eh bien nous tournons le dos au regard du Père. Le Père nous veut entièrement à lui seul. Le moment de communion avec lui est un moment unique, singulier, solennel, qui demande à ce que nous puissions nous y préparer. D'où le bien fondé de cet enseignement. Pas des paroles vaines. Et puis la dernière recommandation, ne leur ressemblez pas. Ne ressemblez pas à ceux qui ne connaissent pas Dieu. N'essayez pas de les imiter. Non. Vous êtes des fils et des filles de rois. Vous devez être conscients de votre dignité du rang que vous occupez. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est difficile quelquefois le réaliser, car dans la plupart des cas, le diable nous amène à une sorte d'introspection maladive, où nous regardons toujours à nos aspects négatifs de notre personnalité. Quand on se regarde, on s'apitoie. Cette espèce de misérabilisme ou de componction qui amène les gens, eh bien, à se considérer comme des gens, comme des nullités parfaites. Seigneur, tu vois, je suis une sauterelle. Seigneur, je ne suis pas différent de cette petite mouche. Voilà. On pense que c'est ça l'humilité, pas du tout. Certes, quand nous avons péché, nous devons nous humilier. Mais ceci n'a rien à voir avec l'humilité. Nous avons chanté tout à l'heure. Réveille-moi de ton humilité, apprends-moi à être humble. Nous devons être humbles comme lui. Il est le modèle par excellence de l'humilité. Et pas cette espèce de fausse humilité. Vous voyez, tout simplement pour attirer les regards de gens. Quand on jeûne, eh bien, on ne marche plus comme il faut. On déforme le cou. Quand on prie, eh bien, on lève les mains. On ouvre grandement sa bouche. On fait sortir des paroles théologiques, philologiques, pensant impressionner Dieu. Dieu n'est pas impressionné par ça. Si vous le faites pour impressionner les autres, Jésus dit, vous avez déjà votre récompense. Mais quand vous priez, ne multipliez pas des paroles, ne leur ressemblez pas. Vous êtes des fils et des filles du roi. Nous sommes ses enfants. Je disais, quelquefois on a difficile à accepter cela. Pourquoi? Eh bien parce que nous regardons souvent à nos manquements, à nos imperfections, à notre vulnérabilité. Nous regardons souvent à toutes ces faiblesses et nous disons, mais comment accepter les déclarations de la Bible? Dieu n'a pas appelé les parfaits. Il a appelé les imparfaits. Mais cependant, ces imparfaits sont sur la voie de la sanctification. Alléluia. Sur la voie de la purification. Malgré nos imperfections, malgré notre vulnérabilité, malgré nos faiblesses, en Christ, comme je viens de le dire, nous avons été élevés. Élevés à un rang et à une dignité qui surpasse tout. Oh, alléluia. Le Seigneur nous a établis dans un statut sacerdotal. Est-ce que nous en sommes conscients que nous avons un privilège indescriptible? Nous avons une grâce incommensurable d'entrer dans la présence de celui qui tient l'univers entier dans sa main. D'entrer dans la présence de celui, mes amis, qui existe de toute éternité. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais été au palais présidentiel ou dans un palais royal ici sur terre. J'ai jamais eu l'occasion d'aller dire bonjour au roi en Belgique. Pourtant, j'ai vécu des années. Je suis passé par la France, j'ai jamais eu l'occasion d'aller à l'Élysée. Voyez-vous? Et donc, on ne se rêve pas le matin, la main dans la poche en sifflotant, vous vous présentez devant la grille du palais royal en disant, tiens, je vais faire un petit coucou au roi Charles. On vous prendrait pour un malade, hein? Voyez? C'est vrai, c'est un privilège quand on a le temps de passer le sas qui conduit vers le palais royal. Cependant, ici, il y a plus qu'un palais royal humain. Ici, mes amis, il s'agit de la demeure du Dieu éternel, de celui qui un jour s'était révélé à Abraham, celui qui un jour, eh bien, avait appelé Moïse, celui-là, celui qui règne de siècle en siècle, éternellement, eh bien, nous a adoptés en Jésus-Christ. Il a fait de nous ses enfants, alléluia. Vous êtes une race élue, dit l'apôtre Paul. Vous êtes une race royale. Vous êtes une communauté sacerdotale. Vous êtes une nation sainte, une nation mise à part. Vous êtes un peuple racheté. Dans quel but? D'annoncer, de proclamer les vertus, les louanges, les hauts faits de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable, à sa merveilleuse lumière. Alléluia! Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, oui, nous étions des brebis égarées dans cette nécropole que le monde. Nous étions morts, voyez-vous. Notre vie ne dégageait que des odeurs insupportables, putrides, nauséabondes. Mais malgré tout cela, un jour, le Seigneur est passé par là. Un jour, il nous a attirés à lui. Un jour, il nous a donné l'occasion de croire en lui, de le recevoir comme Sauveur et Seigneur. À partir de ce jour-là, le Saint-Esprit est venu en nous. Nous sommes devenus le temple du Dieu vivant. Nous sommes passés de la mort à la vie. Oui, nous sommes ses enfants. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il ajoute, nous le sommes. C'est une affirmation. C'est une certitude. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, ça c'était la dernière recommandation. La dernière base sur laquelle repose cette antichambre, cette salle d'attente par laquelle nous devons absolument. Et maintenant que nous sommes passés par là, les portes éternelles du palais royal sont là grandement ouvertes. Notre Père n'attend que nous franchissions les seuils de ces portes éternelles et que nous entrions dans sa présence. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Nous voici enfin devant le trône de la grâce. Nous voici enfin devant les portes éternelles du palais céleste. Enfin devant ce trône glorieux, majestueux, sur lequel il est assis. Nous voici enfin à l'entrée de ce lieu secret où notre Père, avec son Fils Jésus-Christ, siège en majesté. Ce lieu est là devant nous. À partir de ce moment-là, ou de ce moment, nous sommes non seulement prêts, mes amis, à nous approcher du trône de la grâce, mais nous sommes prêts aussi à entrer également dans un environnement glorieux, dans une atmosphère, mes amis, extraordinaire. Une atmosphère éclatante, resplendissante, électrisée, flamboyante. Une atmosphère, un environnement marqué par la présence même du Créateur de toutes choses, le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il est là, notre Père. Nous nous sommes préparés. Nous sommes prêts maintenant à construire notre dialogue avec lui. Nous savons comment nous devons nous y prendre. En tant que fils, en tant que fille de ce Père du ciel, eh bien, il attend ce que nous puissions lui parler avec nos cœurs, avec des mots qui viennent du cœur, comme les enfants parlent à leurs parents, pas avec des mots préparés d'avance, des mots qui seraient simplement des coquilles vides, qu'on va débiter comme des perroquets, non. Comme les enfants parlent à leurs parents. L'enfant arrive, hein, bonjour maman, voilà j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, ok. Ah maman, tu sais, j'apprécie ceci, j'apprécie. Ah maman, tu sais, j'ai un problème à l'école. L'enfant parle avec son cœur. L'enfant ne se met pas dans un coin, et puis il prépare tout ce qu'il aura à dire à sa maman, il les mémorise, et quand il arrive dans la présence de sa mère, « Bonjour maman, tu es la maman la plus chouette, la maman la plus extraordinaire. Quand je te regarde marcher, c'est plus qu'une biche, comme la Bible le dit. Maman, tu vas... » Une mère normale arrêterait tout cet enfant. Hé! Hé, David! Ah, je ne sais pas s'il y a un David, c'est vrai, l'anniversaire. Voilà. Parle-moi normalement. Pourquoi tu dois... débiter n'importe quoi. Et c'est ce que Dieu attend. Enfin, nous sommes là. Nous savons maintenant comment construire notre dialogue. Il est là, notre Père, assis sur son trône, environné de gloire, mais alors une gloire éternelle. Voyez-vous, une gloire pleine de majesté. Il est là, environné d'une lumière inaccessible. Lui, qui seul possède l'immortalité. Il est prêt à nous accueillir. Réalisons-nous, mes amis, le privilège. Ces dieux-là, quand je regarde à ma propre vie, là où il m'a ramassé, et ce que je suis devenu aujourd'hui, et ce privilège qu'il m'accorde de pouvoir passer par la chambre d'attente, me préparer, et puis ensuite m'approcher de son trône et être accueilli par lui, c'est deux choses qui sont au-delà de la raison humaine. C'est des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Voyez-vous, la seule explication que la Bible nous donne, c'est que Dieu est amour. Alléluia. Il est amour. Nous sommes enfin prêts à vivre un face-à-face vivant avec notre Père. Prêts à vivre un cœur à cœur avec ce Père de cieux. Mais avant d'aller loin et à ce stade, j'aimerais... souligner une vérité qui me paraît importante, une vérité essentielle. Mes amis, c'est seulement par Jésus-Christ et uniquement par le Saint-Esprit que nous pouvons entrer dans la présence de notre Père. Jésus est la porte, Jésus est le chemin qui conduit au Père. Il est la porte du salut, il est la porte que nous prenons pour expérimenter la vie éternelle. Il est aussi le chemin qui nous conduit au Père. À chaque étape de notre vie, dans notre approche de notre Père, Jésus est présent. Ce n'est pas parce que nous l'avons reçu un jour, et que maintenant, étant devenu, ayant cette dignité d'enfant de Dieu, nous n'avons plus de lui, besoin de lui, nous pouvons entrer dans sa présence n'importe comment. On arrive et tiens, papa, amen, Elohim, ça va? Non. C'est lui la porte, même pour accéder au palais céleste. C'est lui le chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Le lieu secret, ce lieu dans lequel il vit, où il siège en majesté, est accessible à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. Ce n'est pas un privilège qui serait réservé à une élite. D'ailleurs, il n'y a pas d'élite dans le corps du Christ. Nous sommes tous logés à la même enseigne, l'enseigne de la grâce. Tous sauvés par grâce. Tous justifiés par la mort de Jésus-Christ à la croix. Peu importe notre ministère, peu importe la position que nous occupons dans le corps du Christ, il n'en demeure pas moins que nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Des pécheurs, eh bien, que le Seigneur a appelés. Gloire au Seigneur. Donc, le lieu secret est accessible à tous ceux qui sont en Christ. Cependant, accessible à tous ceux qui sont en Jésus-Christ ne veut pas dire accessible d'office. Vous voyez, c'est ça le problème. Accessible d'office. On vient à l'église n'importe comment. Déjà dans le taxi, on a insulté le chauffeur parce qu'il s'était permis de s'arrêter un tout petit peu. On vient à l'église alors qu'on traîne toutes sortes de casseroles qu'on a amassées durant la semaine, remplies d'impuretés, de souillures, de mensonges, de tromperies, et de toutes sortes de choses répréhensibles aux yeux de Dieu. Et puis on arrive simplement, ok, allez prions, bouh, amen. Attention, Dieu est saint. Voilà pourquoi nous devons passer par cette antichambre pour laisser son esprit nous sonder. La porte du trône de la grâce est étroite et son chemin est resserré, comme le Seigneur nous le dit dans Matthieu 7, 13 à 14, encore dans le sermon sur la montagne. Vous voyez combien, mes amis, ce sermon, ces chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu sont d'une importance inestimable. Que nous dit le Seigneur dans Matthieu 7? Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup, malheureusement, si je peux ajouter cet adverbe, malheureusement, il y en a beaucoup qui entrent par là. Et le Seigneur de continuer. Mais étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. La porte, le chemin du salut, c'est une personne. La porte, le chemin qui conduit au trône de la grâce, pour une communion intense, pour une communion intime, c'est encore qui? C'est encore Jésus. Encore Jésus. Toujours Jésus. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Ainsi, les grâces merveilleuses que le Seigneur réserve, parce qu'il dit, et votre Père vous les rendra. Et votre Père vous récompensera. Et comme je l'ai souligné à plus d'une fois, la rémunération de notre Père, la récompense de notre Père, est une récompense, une rémunération tous azimuts. C'est-à-dire qui va dans tous les sens, par rapport à tous nos besoins, quels qu'ils soient. Il y a des choses qui nous arrivent pour lesquelles nous n'avons jamais prié. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que nous avons, des grâces que nous avons pour lesquelles nous n'avons jamais prié, hein. Qui a intercédé toute la nuit pour qu'il puisse avoir ce souffle vital qui l'anime aujourd'hui, souffle qui nous a permis de nous déplacer, de venir ici? Qui a fait ça? Et pourtant, dans son amour, il nous a prêté ce souffle vital. Dans son amour, nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes réveillés plutôt, en retrouvant, toutes nos fonctions essentielles. Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Faisons très attention. Nous vivons des temps très difficiles. Je parlais tout à l'heure de la distraction. La distraction est partout, de plus en plus. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui, à cause des médias sociaux, pensent qu'ils acquièrent, que leur vie acquiert une certaine plus-value parce que leurs publications sont likées, hein? Voilà encore un néologisme, un anglicisme, sont likés par 5000 personnes. Chaque matin, avant d'aller prier, encore, si on pense prier, on consulte d'abord toutes ces choses-là. Et on pense qu'avec le ciel, c'est comme ça. Non, le meilleur like, c'est celui de Dieu. Alléluia. Je peux passer inaperçu, n'être pas dans les réseaux sociaux, et pourtant être connu du ciel tout entier. Parce que j'ai une proximité avec Dieu. Parce que tu marches, tu vis une vie de consécration à lui. Quand tu passes, personne ne s'intéresse à toi. Parce que tu n'as pas une allure selon le monde. Car le monde a ses paradigmes pour juger les gens. Il faut être en costume. C'est pour le besoin que j'ai mis, hein. Bref. Il faut être familier de cette manière, etc. Vous passez inaperçu. Mon frère, ma sœur, il faut pas en souffrir du moment où le ciel te voit, du moment où tu passes plus de temps avec ton Père
tu reçois les meilleurs likes.
Et gloire à Dieu. Allons maintenant à la découverte de ces lieux. Je ne veux pas vous laisser avec de l'eau à la bouche. Le but, c'est de boire, n'est-ce pas? À la découverte de ces lieux glorieux, qui est la demeure même de Dieu, le lieu secret ou céleste où notre Dieu règne en majesté. En d'autres mots, nous allons maintenant entrer dans le palais céleste. Serrons bien nos ceintures. Ne tremblons pas. Il est là, notre Père. Voyez? Entrons dans le palais céleste. Mais qu'est-ce qui nous attend dans ce palais? Certes, il est question de trône de la grâce. Il est assis sur le trône. Comment? Comment avoir une idée de ce qu'il y a là-haut? Et là, mes amis, laissez-moi vous dire que la Bible reste le seul moyen. Le seul moyen dont nous avons besoin pour essayer d'entrevoir, je parle bien d'entrevoir, car la réalité, au travers de toutes ces descriptions, comme nous allons le voir, est au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. La Bible a nous enseigné là-dessus, de l'atmosphère, de l'environnement qui règne là, dans son palais céleste. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, concernant le trône de la grâce, concernant le palais céleste et son environnement, nous allons trouver à travers la Bible des lumières que le Seigneur nous a laissées, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, des vérités que nous trouvons à travers la parole de Dieu, des vérités qui sont là pour nous permettre d'avoir une certaine idée, une certaine image. Bref, que nous sachions réellement dans quelle réalité spirituelle, évidemment, réalité extraordinaire, nous entrons. Ces réalités insondables, ces réalités, mes amis, qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'il y a ici-bas, tout ce qu'il y a dans ce monde visible. Il a fallu que Dieu lui-même, et nous allons le voir, prenne certaines personnes et les amène là-haut pour qu'enfin, il réalise ce qui se passe autour du trône, ce qu'il y a là dans son palais céleste. Alléluia. Le Seigneur le fait donc au travers des visions célestes, au travers des expériences que certains serviteurs de Dieu ont eu à faire à travers les cultures saintes. Ces expériences sont là pour stimuler notre foi. Car nous prenons conscience du monde invisible autour de nous. Nous voyons, nous regardons, nous voyons, nous observons les réalités spirituelles autour de nous, non pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de la foi. Car nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Cela veut dire que toutes ces visions que nous allons examiner, afin d'avoir une idée, une image de ce qu'il y a là dans la demeure céleste de notre Père, sont là, non pas pour susciter en nous une certaine curiosité mystique, c'est-à-dire que nous puissions nous lancer dans une vie de jeûne, de prière, pour qu'enfin nous aussi, nous expérimentions ce que l'apôtre Jean avait expérimenté quand il était sur l'île de Patmos, là où le Seigneur lui avait donné toutes ces révélations que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Non! Faisons attention. Jean n'a jamais jeûné. Jean n'a jamais dit, Seigneur, me voici, je me mets à part. Je vais prier, je vais avoir 3, 4, 7 nuits de prière pour qu'enfin je voie des choses d'au-delà. Non. Dieu, dans sa souveraineté, lui a accordé de voir ces choses. Alléluia. Nous trouvons en effet des descriptions nombreuses, des réalités qui environnent, mes amis, le trône du Dieu vivant. Alors, que nous révèle ces visions et ces expériences vécues par certains personnages de la Bible? Ils ne sont pas nombreux. Hein. Si vous lisez la Bible, je vous encourage à la lire. Hein. Chaque année, nous vous donnons le plan pour lire la Bible. On a vu que certains ont des difficultés à terminer toute la Bible en une année. Je peux vous assurer qu'il faut vraiment serrer sa ceinture. Il faut de la discipline de fer. On l'a séparé en deux. Vous pouvez lire la Bible toute entière
en 2 ans, c'est pour que vous ayez une idée, pour que vous vous accrochiez à ce que la Bible dit, et non pas à toutes ces spéculations théologiques, à toutes ces interprétations rocambolesques que nous voyons aujourd'hui et qui sont véhiculées, hélas, dans les médias. Nous allons nous intéresser à 4 serviteurs de Dieu. Maintenant, j'aurais pu en prendre d'autres. Et donc, 4 serviteurs de Dieu qui ont eu cette grâce, alors qu'ils étaient encore sur cette terre, dans un corps semblable au nôtre, c'est-à-dire en proie aux mêmes faiblesses, en proie aux mêmes imperfections, mais qui, à un certain moment, de par leur vocation, etc., ils ont été amenés à vivre, à voir de choses extraordinaires. Les 4 sont le prophète Ésaïe, le prophète Ézéchiel, Daniel, et enfin dans le Nouveau Testament, nous parlerons de Jean, et si le temps nous le permet, nous pourrions parler d'un autre apôtre, à savoir l'apôtre Paul. Alors, nous allons lire dans Ézéchiel. Et là, la première révélation concernant ce lieu, c'est que ce lieu est à la fois un lieu secret, c'est-à-dire qu'il ne se donne pas à voir à tout le monde. Il a fallu que Dieu prenne son serviteur, Ézéchiel, pour le faire entrer dans des dimensions qui sont au-delà de la raison humaine. Il a fallu que Dieu le prenne en esprit, qu'il lui ouvre les yeux, pour qu'enfin, qu'il voit toutes ces choses. Et là, on voit que c'est un lieu à la fois secret, qui n'est pas à la portée de tout le monde, à la portée de n'importe quelle expérience mystique, mais aussi un lieu glorieux, comme nous allons le découvrir. Un lieu merveilleux, où la vie bouillonne. Un lieu où tout est vivant. Alléluia. Tout est imprégné de la gloire, de la majesté de notre Dieu. Ézéchiel, chapitre 1er. Lorsque cet homme est amené à faire toutes ces expériences qu'il nous a laissées dans son livre et qui porte son nom, il était en exil avec les descendants de Jacob. Ils sont en exil en Babylonie parce que, à cause de l'idolâtrie, je vous passe les détails, Dieu avait permis enfin que malheureusement son peuple soit emporté aille en exil en Babylone. Il était parmi les exilés. Il était sacrificateur. Et là, au verset 1er, nous lisons, nous allons lire les 3 premiers versets et puis nous irons à la fin, puisque nous n'avons pas le temps de lire tout le chapitre, mais je vous demanderai de le lire, en sachant qu'il y a des détails, qu'il y a des descriptions qui défient notre intelligence. Voilà. La 30e année, nous dit Ézéchiel, le 5 du 4e mois, comme j'étais parmi les déportés près du fleuve du Kébar, nous sommes en Babylonie, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5 du mois, c'était la 5e année de la déportation du roi Joachim, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Il faut savoir que le fleuve, on l'appelait fleuve du Kébar. Le Kébar est un grand canal qui part du fleuve Euphrate. Voilà, un très très grand canal qu'ils appelaient fleuve. Sinon, les 2 grands fleuves qui sont connus dans cette région sont le Tigre et l'Euphrate. Donc c'était un grand canal. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Nous allons verser. À partir de ce moment, il va contempler des choses qu'il va essayer de nous décrire ou de décrire au premier lecteur avec des mots qui lui étaient propres, avec des catégories, des concepts qu'il connaissait. Il va parler d'un char sur 4 roues, au milieu du char, il y a un trône, et sur le trône, quelqu'un. Voilà. et puis du feu, etc. Je vous passe les détails. Verset 27. Je vis encore comme un éclat étincelant, ayant l'aspect du feu, et qui rayonnait tout autour, depuis ceux qui semblaient être serins. Il parle, il est en train de décrire ce personnage extraordinaire, glorieux qu'il a vu. Depuis ce qui semblait être serein jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être serein jusqu'en bas, j'ai vu comme du feu et une clarté autour de lui. Comme, vous voyez, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec les réalités auxquelles il était familier. Alors il utilise là, c'était comme, voilà, c'était comme. Verset 28. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue, donc l'éclair, hein, en un jour de pluie, tel était l'aspect de la clarté, de la lumière qui l'entourait. C'était une apparition de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai la face contre terre et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Amen. Ésaïe, avec des mots, avec des concepts, avec des catégories qui lui étaient familières, essaye de décrire l'indescriptible. Essaye de partager son expérience. Puisque si Dieu lui avait donné, c'était pour qu'il partage cela à son peuple de la première alliance, et aujourd'hui à son peuple, nous, de la deuxième alliance, de la nouvelle alliance. Voyez. Cet homme a vu des choses extraordinaires, des choses indescriptibles, mais qu'il essaye de transcrire avec les mots qui lui étaient propres, des choses qu'il essaye de nous raconter à partir des catégories qui lui étaient familières. C'est comme ici. Allons dans des sociétés les plus qui vivent en autarcie. Il y a des civilisations en Amazonie, hein, dont on a découvert un peuple il n'y a pas très longtemps, qui sont coupées du reste du monde. Et donc, ils ont des réalités. Ils vivent avec une certaine vision du monde, oui ou non. Leur vision s'arrête à ce qu'ils voient. Ils ont des villages, ils ont des cases, il y a des animaux, il y a ceci, il y a cela. Ils font des enfants, etc. Et voilà. Mais imaginez-vous un peu que ce peuple-là, qui savent qu'il n'y a qu'un oiseau qui vole, hein, l'homme ne peut pas voler. Une chèvre ne peut pas voler. N'est-ce pas? Eh bien, il n'y a qu'un oiseau. Alors imaginez-vous un peu ce peuple-là, soit visité par des gens avec un hélicoptère. Et qu'ils atterrissent en hélicoptère. Des gens, un blanc, type occidental, et puis un africain, type négroïde. Les deux, ce sont eux qui pilotaient l'hélicoptère. L'hélicoptère atterrit. La porte s'ouvre. Les deux descendent. Évidemment, quelle serait la réaction de ce peuple-là? Je vous laisse un peu réfléchir. Ceux qui auront vu ça, ceux qui auront entendu les deux hommes, blancs et noirs, en train d'échanger, dans un langage qui n'a rien à voir avec eux, avec d'autres accents. Ils n'ont jamais entendu se parler. Ils n'ont jamais vu un type européen. Chez eux, la réalité, c'est entre eux les Indiens. Je parle des Indiens d'Amérique. Hein. Voilà. Ils n'ont jamais eu d'homme noir, grand, comme les basketteurs américains. Maintenant, ceux qui voient ça, c'était peut-être des chasseurs. Les deux hommes les approchent, mais puisqu'ils n'ont jamais vu ça, quelle va être leur réaction? C'est de fuir, non? C'est pas possible. Alors imaginez-vous un peu, il rentre dans le au village. C'était 3 ou 4 hommes. Ils doivent expliquer à leurs épouses ce qu'ils ont vu. Comment ces gens décririont-ils un hélicoptère, quelque chose qui n'existe pas dans leur réalité? Qu'est-ce qui vole pour eux? Un oiseau, un aigle. Ah oui, ils vont dire quoi? C'était comme un aigle. Mais il n'avait pas d'aile. Et il faisait du bruit, on n'a jamais entendu ça. Et tout d'un coup, il y a comme une porte qui s'est ouverte. Et on a vu des créatures qui nous ont fait peur. Très grands. À leurs yeux, nous étions tout petits. Ils se sont approchés dans un premier temps, nous étions comme paralysés, tétanisés. Et puis on les a entendus parler, mais ils ne parlaient pas notre langue. On n'a rien compris. Et puis à un moment, on a fui. Et en nous écartant, ils sont remontés à bord. Et puis de nouveau, cet oiseau-là énorme, sans ailes, a fait quoi? Voilà comment ils auraient décrit. Pour eux, c'est quelque chose qui est au-delà. C'est exactement la même chose avec Ézéchiel. Il voit des choses qu'il ne peut pas décrire, car dans son langage, il n'y a aucun mot pour exprimer ce qu'il voit. Ce sont des concepts, ce sont des réalités, ce sont des choses qui sont au-delà. Alors il utilise les catégories qu'il connaît. Le feu brûle, c'est comme du feu. Alléluia. La lumière, c'est comme la lumière de l'éclair. Voyez. Donc, à ce niveau, nous voyons que la gloire entoure le trône de notre Père. Alléluia. Il est environné d'un éclat étincelant. Cet éclat qui a l'aspect du feu, brillant, rayonnant comme la lumière de l'éclair. Et c'est à juste titre que Paul dira plus tard, il est le seul qui possède l'immortalité, le seul qui habite une lumière inaccessible. Ézéchiel n'est pas entré dans la lumière. Ézéchiel a vu, Ézéchiel nous rapporte. Mes amis, dans ce lieu-là, tout baigne dans la gloire. Il y a la lumière, il y a le feu, il y a des choses terribles. Voyez-vous, voilà l'environnement dans lequel nous entrons. Êtes-vous prêts à contempler cette gloire avec les yeux de la foi? Sommes-nous prêts à dire, Père, je sais que tu es là comme Ézéchiel, comme quelqu'un. Il ne nous décrit pas, hein? Il ne nous décrit pas, hein? Nous allons voir avec Esaïe. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et des chérubins criaient l'un après l'autre, saint, la fameuse Kedusha juive. Saint, saint, saint. Vous voyez? Nous le verrons. Il n'a pas décrit, il voit. Il dit, à partir des serins, donc il voit ça. Et puis de là, vers le haut, il est environné de lumière. Il y a du feu devant lui. Il y a des éclairs. C'est quelque chose d'indescriptible. Eh oui, que nous ne pouvons voir qu'avec les yeux de la foi. Alors je vous prie de vous mettre debout. Et nous allons maintenant adorer notre Père. Nous allons lui dire, Père, merci. Tu habites une lumière inaccessible. Ton trône est environné de gloire. Tu es là, souverainement élevé au-dessus. Au-dessus de toute autorité, de toute souveraineté, au-dessus de toute puissance. Et là, autour de toi, comme nous le verrons, il y a d'autres créatures qui le louent, qui l'adorent, qui proclament sa sainteté, sa majesté. Et là, à la droite, sur le trône, il y a l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Et l'agneau digne de recevoir la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance, l'adoration. Alors, mettons-nous à l'adorer. Nous sommes dans sa présence, ne nous laissons pas distraire. Comme nous l'avons vu, ne cherchons pas à attirer le regard des autres sur nous. Mais sentons-nous là, devant ce trône glorieux, devant ce trône majestueux, devant celui qui est notre Père, dont nous sommes les enfants. Et parlons-lui en cohérence avec ce qu'il est pour nous. à savoir notre Père. Mais aussi, parlons-lui en cohérence avec ce que nous sommes pour lui, à savoir ses enfants. Alors loue ton Père, qui est là dans le lieu secret. Partage-lui ton problème. Dis-lui combien tu l'aimes. Proclame son nom. Proclame sa majesté. Il est là, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Oh, alléluia. Oh, merci. Notre Père des cieux, nous sommes là devant toi, ô Père. Quel privilège de paraître devant ta face. Quel privilège, ô Père, d'entrer dans le Saint des Saints pour nous prosterner devant toi et te rendre ce qui t'est dû de toute éternité. Tu es environné de gloire et de majesté. Tu habites une lumière, Seigneur, d'une intensité plus que toutes les étoiles de l'univers. Ton trône est entouré de feu. Tout est éclatant, tout est rayonnant, tout est flamboyant tout autour de toi, ô Père. Oh, merci pour tout. Quelle grâce de pouvoir accéder auprès du trône sur lequel tu es assis. Quelle grâce de te louer, de t'adorer. Quelle grâce d'être, de faire partie, ô Dieu, de ces hommes et de ces femmes, Seigneur, que tu as adoptés, ces hommes et ces femmes qui font partie, ô Seigneur, Seigneur, qui font partie de ce noté sacerdotal. Merci pour le rang, pour notre dignité, sacrificateur dans ton royaume. Nous te louons, notre Père. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Tu es à la droite du Père. Tu intercèdes pour nous. Reçois nos acclamations. Reçois le cri de nos cœurs. À toi louange, à toi honneur. Seigneur, avec tout cela, nous pouvons comprendre, encore mieux comprendre, ce que Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il n'y a pas d'autre lieu où nous pouvons assumer pleinement notre vocation de sacrificateur que là, dans ton lieu secret, là, dans le sein de Saint Céleste. Il n'y a pas d'autre lieu où nous pouvons, Seigneur, accomplir pleinement notre raison d'être ici-bas, notre raison d'être de vivre ici-bas, si ce n'est dans ta présence. Alors apprends-nous, Seigneur, apprends-nous à mener une vie qui te plaise. Débarrasse nos cœurs de toute impureté, débarrasse nos cœurs de toute souillure, de tout sentiment négatif qui pourrait, Seigneur, nous empêcher d'aller au-delà du voile, qui pourrait exercer une sorte de pesanteur. Oh, merci d'être à l'œuvre dans nos vies, de nous rendre, Seigneur, conformes à toi. Merci pour tout. Que la vision, Seigneur, de ton palais céleste puisse nous impacter, puisse imprégner nos pensées. Que toutes ces visions que nous allons voir puissent nous aider, Seigneur, à contempler, ô Dieu, toutes ces réalités spirituelles avec les yeux de la foi. Merci pour tout. Merci Seigneur, tout en demeurant dans cette attitude, là dans ton ciel, dans ton palais céleste, nous voulons te prier Seigneur d'accepter nos offrandes, d'accepter nos dîmes, d'accepter Seigneur notre générosité par rapport à la construction Seigneur du temple. Nous le faisons avec cœur, nous le faisons par amour pour toi, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir.